1 Pierre chapitre 2, versets 20 à 25. Premier épître de Pierre chapitre 2, versets 20 à 25. Au nom de Jésus. Car quel mérite y a-t-il à supporter des coups si vous les recevez pour avoir commis une faute? Mais si vous avez à souffrir après avoir bien agi, et que vous les supportiez, c'est un bien devant Dieu. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car le Christ lui-même a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Il n'a pas commis de péché, on n'a jamais entendu de mensonge sortir de sa bouche, et quand on l'a insulté, il n'a pas répondu qu'à par l'insulte. Quand il a souffert, il n'a pas formulé de menace, mais s'en est remis à Dieu qui juge avec justice. Et le Christ lui-même a porté dans son corps nos péchés sur la croix, afin que nous mourions au péché et que nous vivions d'une vie juste. C'est par ses blessures que vous avez été guéris, car vous étiez comme des moutons égarés, mais maintenant vous avez été ramenés vers celui qui est le berger et le gardien de vos âmes. Amen. Quelle personne sensée peut cautionner et accepter la phrase de Pierre au verset 20, deuxième partie, qui dit « Si vous endurez la souffrance tout en faisant du bien, c'est une grâce devant Dieu. » Moi, personnellement, je me suis arrêté là. Je dis non, c'est pas possible. Est-ce que c'est une grâce de souffrir à cause de l'injustice de l'autre? Je crois qu'à nos jours, ce genre de message ne passera plus. Il se peut même que des exégètes pourront dire « ça, il faut l'enlever de la Bible, c'est dépassé ». Surtout avec le confort que nous avons aujourd'hui, que nous ne cessons pas d'acquérir de jour en jour une façon de vivre plus sereine. Tout d'abord, il ne faut pas tout de suite comprendre à moitié ce verset. Il faut que nous visionnions d'abord ce qu'il y a autour de notre péricope. Ce texte fait partie de toute une série de recommandations sur une belle conduite dans la société. Si vous lisez à partir de tout le chapitre 2 et le chapitre 3, il parle du respect dû aux institutions. Il parle du type de rapport entre un esclave chrétien et son maître. Il faut le situer dans son contexte de l'époque, parce qu'il y avait encore les esclaves. Et enfin, la vie conjugale d'un couple, d'une épouse chrétienne mariée à un mari non chrétien et qui en souffre à cause de cela. C'est bien défini dans cet épître. Donc, dans ces trois points-là, le dénominateur commun, c'est la soumission. Et là, c'est compliqué. Est-il possible de se soumettre à son maître, ou on va dire à son chef, à son patron, au boulot, qui n'est pas chrétien et qui gouverne injustement? C'est la problématique du texte. Même chose aussi pour l'épouse vis-à-vis de son mari qui piétine sa foi. Et malgré tout cela, quel mot d'ordre qui sort de la bouche de Pierre? Soumission, mais pas rébellion. Dur à avaler. Est-ce que vous imaginez une minute la valeur de ce mot « soumission » quand il sort de la bouche d'une telle personne qui s'appelle Pierre? Si ça vient de Jean, mais lui, Jean, il est gentil, il est flegmatique, c'est quelqu'un de très... Mais c'est Pierre qui parle ici, hein, le sanguinaire, la brute. Soumettez-vous. Celui qui avait eu une très forte caractère parmi les disciples. Celui qui n'acceptait pas l'injustice, à chaque fois il sortait son épée, tchac. Pierre qui dit « soumettez-vous à l'injustice ». Il faut se rappeler qui est Pierre, d'abord. Pierre fait partie des zélotes. Et dans ce mot « zélote », il y a le mot « zèle ». Il avait beaucoup d'engagement dans ses engagements révolutionnaires. C'était un révolutionnaire. Les zélotes, c'est un parti politique au temps de Jésus. Donc Jésus a piqué aussi un peu partout dans les différents courants qui existaient politiquement. Les zélotes avaient beaucoup d'engagement dans la vie de la société. Ils veulent changer la société et faire dégager les oppresseurs du peuple. C'était le but principal des zélotes. Par exemple, les zélotes, ils incitaient les gens à ne pas payer leurs impôts à l'occupant romain. Et d'ailleurs, à un certain moment, Jésus était mal vu aux yeux des Juifs parce qu'on le soupçonnait d'avoir de bonnes ententes avec les occupants, les Romains. Et finalement, les idées de Jésus n'étaient pas du tout populaires à son époque. Malgré tous les miracles qu'il a fait un peu partout, vous avez vu à la fin, les gens ont choisi Barre. Barre, parce que c'est un zélote. C'est normal. Jésus, lui, non. C'est quelqu'un qui n'est pas intéressant politiquement parlant. L'attente de la population de son époque, il voulait un leader, un chef révolutionnaire qui ferait tomber les dirigeants qui leur ont fait souffrir. C'était le profil type attendu par la société. Et rappelons-nous dans les évangiles, lorsque les gens ont vu les miracles de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu le prendre en force. C'est bien écrit dans les évangiles. Hein. Ils ont voulu le prendre en force pour le faire roi. Et Jésus a dû se retirer. Vous imaginez, Jésus se cachait pour éviter cela. Et c'est ce qui fait mal à Jésus quand il a dit « Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à votre faim et non parce que vous avez saisi le sens de mes signes miraculeux. Vous voulez quelqu'un qui règle vos problèmes quotidiens, tout simplement. La famine, le chômage. C'est juste ce Jésus-là que vous voulez. » Et regardez ce qui se passe aujourd'hui, quel genre de message qui passe le mieux dans les médias ou dans les différentes églises. Un Jésus qui règle tous les problèmes sociaux, c'est un Jésus qui va bien. Mais on ne veut pas d'un Jésus sauveur contre son péché. Ça gêne. Et imaginons si Jésus, moi je me suis fait une idée en préparant cette méditation, imaginons si Jésus avait pris les choses en main. Restaurer la justice, comme on le souhaitait. Restaurer la souveraineté du peuple juif. Et mettre cela en priorité. Quelle serait la conséquence directe? Je suis sûr et certain, le salut ne serait pas réalisé. Israël aurait retrouvé son indépendance, certes. La population aurait trouvé la paix et le bonheur. Mais le salut n'aurait pas pu être exécuté à la croix. Voilà le prix à payer. Le salut de l'humanité ou la justice sociale en Israël? Jésus a fait le choix. Il a voulu le salut de l'humanité. Jésus n'est pas venu dans le monde pour avoir le prix Nobel de la paix. Lui, il ne veut pas de ça. Au contraire, voici ce qu'il a dit. « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. » Matthieu chapitre 10, verset 34. Alors la question qui se pose, pourquoi Pierre demande cette soumission-là face à l'injustice? Et dans quel objectif qu'il a dit cela? Tout d'abord, il faut savoir que Pierre ne justifie pas, ni ne défend en aucun cas, les abus commis par les maîtres tyranniques. Et la question ne se situe même pas sur une lutte sociale. Ce que Pierre essaie de faire comprendre à nous, aux esclaves de son époque, aux serviteurs chrétiens, que la vraie cause de leur souffrance vis-à-vis de leur maître dans ce contexte ici, c'est parce que justement ils ne sont chrétiens. C'est là qu'il faut mettre le curseur. Parce que vous êtes chrétien et alors vous serez victime du système. Voilà. C'est pas le système qui est problématique. C'est pas le dirigeant plutôt. C'est parce que vous êtes chrétien et vous allez vivre à l'encontre du système. Ce n'est pas l'injustice qui est mise en cause, mais plutôt la foi de ces personnes qui ont cette capacité de subir des injustices parce qu'ils sont chrétiens. Et face à l'irritation de leur maître, Pierre demande qu'ils mettent en avant d'abord la foi et ensuite la justice. La foi d'abord et la justice. Chers frères et sœurs en Christ, ce théorème de Pierre ne lui est pas tombé dessus comme ça d'un seul coup. Il s'est inspiré sur la vie de Jésus comme référence. Ce qui s'est passé avec Jésus, pour lui, c'est une injustice totale. Il a été crucifié, on vient de lire tout à l'heure avec les textes, injustement. Et même Pilate n'avait rien trouvé de mal en lui. Mais ce qui était le plus important pour Jésus, c'est le salut de l'humanité. Avant sa propre justice, avant sa cause, vous voyez, il voit plus loin. D'abord le salut et ensuite la justice, la cause de l'autre. Jusqu'à la croix, face à l'humiliation des gens qu'il a subis, il a choisi le salut. Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi. Fais une démonstration de force. Mais s'il l'avait fait, quelle serait la conséquence? Moi et toi, nous serons perdus. Alors soyons réalistes. Nous vivons dans un monde, au milieu du monde, et donc les injustices ne cesseront jamais jusqu'au retour du Christ. Le christianisme, chers frères et sœurs, en Christ, n'a pas pour mission d'éradiquer l'injustice dans le monde. Ce n'est pas le but principal. Ou d'enlever la souffrance, même si c'est une cause noble. Sinon, nous allons réduire l'évangile, grand E, en un évangile petit e social. L'évangile grand E, c'est le salut. Et parfois, ça peut passer par l'injustice. La croix, c'est l'injustice. Mais c'est ça le salut de l'humanité. Si c'était la justice sociale qui devait être en premier, il n'y aurait pas de salut. Sinon, nous réduirons l'évangile qu'à un simple texte de revendication sociale. Et c'est un peu le risque, c'est ce que la foule voulait de Jésus, qui règle leurs problèmes sociaux, famine, maladie, conflits familiaux, etc. Jésus ne voulait pas de cela, il est venu pour sauver. Ce n'est pas mauvais en soi de s'investir dans des luttes qui amélioreraient la vie de la société ou de la cité, mais si ce n'est que ça, nous raterons la cible de l'évangile. Sauver aussi même celui qui commet l'oppression. Voilà, l'évangile va plus loin. Sauver celui qui commet l'oppression. Et c'est là que ça coince entre la façon de voir les choses chez Jésus et la vision de ses contemporains. Un exemple précis, Jésus qui allait manger avec les personnes infréquentables, les collecteurs d'impôts, les ennemis publics. Le soldat romain qui avait un serviteur qui était malade et qui cherchait un secours auprès de lui, il est venu chez lui. Ce sont les deux symboles des ennemis de l'époque. Donc je me suis dit, si Jésus était vivant à notre jour aujourd'hui, Jésus aurait pu manger chez un islamiste radical. Oui, c'est parce que c'est l'ennemi public aujourd'hui. Mais voilà, c'est ça notre Jésus. Et c'est pour ça qu'il n'est pas si populaire que ça. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche le populisme. Et il nous faut toujours rappeler ce mot d'ordre prononcé par Paul, car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde, célestes, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est là qu'il faut orienter notre cible. Nous luttons contre des forces spirituelles, mais pas contre des êtres humains. Est-ce que nous saurions faire la différence entre le mal qui instrumentalise les gens à faire du mal autour d'eux et le mal grand M qui agit, c'est-à-dire le diable, et qui a servi les gens, qu'ils le sachent ou pas? Toutes ces personnes qui font des choses monstrueuses, ils ont été sous le contrôle du mauvais. Donc détournons notre haine ou notre amertume des personnes qui nous font peut-être du mal, certes, plutôt que sur la force maléfique qui veut tout détruire. On vient de lire tout à l'heure dans Jean chapitre 10, le voleur quand il vient pour détruire et tuer. Ne portons pas notre haine sur des personnes. Tel est le message qui nous est adressé aujourd'hui, ce matin. Et ça change tout avec l'humeur du moment. Vous avez suivi les campagnes électorales en France et ce qui se passe aujourd'hui en Europe. On veut chercher un coupable aujourd'hui. Qui est responsable de la crise? Qui est ce qui est derrière tout ça? Mais n'oublions pas qu'il y a une autre force quelque part qui joue avec tout ça. Oui, peut-être ce qu'il ou ce qu'elle fait est ignoble, impardonnable, mais il ou elle n'était qu'un pion dans les mains du mal. Oui, l'injustice est là. Elle est une réalité du monde, partout. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'elle s'accentue encore de plus en plus vis-à-vis des chrétiens. Puisqu'il n'accepte pas de jouer le jeu à cause de sa foi et de ses convictions religieuses, le déferlement du monde contre nous s'intensifie de façon incroyable. Alors, le message aujourd'hui, accrochons-nous. Car la parole de Jésus dans le livre d'Apocalypse nous fait réfléchir. Ne tiens pas caché parole prophétique de ce livre, car le moment fixé pour tous ces événements est proche. Que celui qui est mauvais continue à mal agir, et que celui qui est impur continue à être impur, mais que celui qui fait le bien continue à le faire. C'est-à-dire, malgré le mal qui est là, continue à résister, continue à maintenir ta foi. Malgré ce que nous subissons, ne soyons pas influencés ou déstabilisés par cela. N'entrez pas dans le piège du mal. N'entrez pas dans l'engrenage où ils veulent nous entraîner. Fixons notre regard uniquement que sur le Christ qui veut sauver d'autres personnes. Amen.